On continue avec le diplôme de juin, et là, le foot, l'Eurofoot, David Garcia, c'est du 8 juin au 1er juillet, et on découvre, ben ça correspond un peu à tout ce qu'on vient de dire là, qu'il y aurait certains clubs de foot qui ne paieraient pas tellement leurs impôts, ni leurs cotisations sociales, c'est ça, si j'ai bien compris. Alors que le secret, toujours si j'ai bien compris ce que vous dites, pour gagner des matchs, c'est d'avoir beaucoup de sous pour payer des bons joueurs. C'est ça un peu en gros ce qui sort de votre papier.
Oui, c'est ça. Et même les clubs en question dont vous parlez, ce sont les clubs espagnols. Et on peut dire que l'histoire n'est pas très morale dans la mesure où ce sont les clubs qui payent le moins leurs impôts qui gagnent le plus de matchs et de compétitions. En l'occurrence, en Espagne, les principaux clubs de foot ont des arriérés fiscaux de 752 millions d'euros. Et depuis des années, on a des gouvernements successifs, de gauche, le gouvernement socialiste jusqu'à l'année dernière, et de droite, qui...
Le mot est un peu fort de gauche, là.
Oui, et qui permettent à ces clubs d'avoir des reports, de ne pas payer, quoi. Et il y a aussi un problème par rapport à la sécurité sociale, puisqu'ils ne payent pas leurs cotisations, quoi. Et donc, il y a aussi une dette par rapport à la Sécu qui est de 250 millions d'euros. Donc, ça fait en tout 1 milliard d'euros.
En Espagne, où 50% des jeunes sont au chômage, quoi. Hein.
Ouais. Et... ce qui est particulièrement choquant, c'est que cette inégalité, c'est-à-dire le fait que plus on contrevient aux règles fiscales, plus on a d'argent, plus on gagne des matchs, plus on gagne des compétitions, ça contrevient au principe fondamental du sport, qui est ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport et le fair play. Et ça contrevient surtout totalement au discours officiel de l'UEFA. Alors l'UEFA organise l'Euro de football, le championnat d'Euro de foot, et surtout une grande compétition très médiatisée qui est la Ligue des Champions, qui voit s'affronter les principaux clubs européens. Alors, je vais vous lire brièvement la grande philosophie de l'UEFA. L'UEFA affirme à chacun de ses congrès que le football est synonyme d'équité, que le football n'est pas un sport fermé auquel seuls les riches et les puissants pourraient participer, et que l'UEFA ne tolérera en aucune manière une structure ou un système où les petits clubs, les petites fédérations et leurs supporters n'auraient aucune chance de réaliser leurs rêves. Alors, évidemment, entre le discours et la réalité, il y a un léger écart, hein. Dans les faits... au-delà de l'Espagne, plus on est riche, plus on gagne des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions. Sans argent, sans des dizaines de millions d'euros, impossible de recruter des Cristiano Ronaldo, des Didier Drogba. Et à ce jeu, les grands pays du football européen, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie, dominent très très largement le football européen. Alors évidemment, l'UEFA est conscient du problème, conscient du petit problème d'image, et a un petit peu peur qu'une partie des pays européens quittent le navire et que le système s'effondre. Et c'est pour ça que Michel Platini, notre Michel Platini national, qui a été le capitaine de l'équipe de France, quand il a été réélu à la présidence de l'UEFA, la fédération qui organise ces compétitions, eh bien, a été élu sur un programme quasiment, j'allais dire, altermondialiste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que l'ont présenté les médias, et notamment les médias français. Et son principal programme, c'était il faut réguler le football et il faut imposer un fair play financier. Et alors, l'idée du fair play financier est que toutes les équipes doivent respecter les mêmes règles financières. Et on retombe sur le thème de la dette. Parce que ce qui se passe, c'est que les plus grands clubs sont endettés, ont des déficits. Ce qui leur donne un avantage exorbitant par rapport aux petits clubs qui n'ont pas le droit. Alors Michel Platini a instauré un système, un panel de contrôle financier très sérieux qui est chargé de superviser les comptes des clubs. Il a mis à la tête de ce panel un certain Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre de Belgique. Jean-Luc Dehaene était le vice-président de la Convention européenne qui a établi le projet de traité constitutionnel européen. Et Jean-Luc Dehaene affirme la main sur le cœur qu'il n'y aura pas de passe-droit, que si le Real Madrid, Milan AC ou Bayern de Munich ne respectent pas les règles, eh bien ces clubs pourraient même être exclus. Malheureusement, il est un peu permis d'en douter, dans la mesure où sans ces grands clubs, il n'y aurait pas d'argent, car le système financier de l'UEFA repose sur les droits télé. Tous les ans, l'UEFA redistribue 750 millions d'euros de droits télé. Or, les télévisions payent pour avoir du spectacle. Et le spectacle, ce sont les grands clubs qui l'assurent avec toutes ces stars. Et c'est tellement vrai qu'il y a une dizaine d'années, ces grands clubs avaient menacé l'UEFA de quitter la fédération pour assurer plus de spectacles et pour réduire la glorieuse incertitude du sport. Et elles avaient menacé de créer une ligue fermée. Et à l'époque, le chef de file de cette fronde n'était autre que Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, président du Milan AC, un des plus grands clubs du monde, et accessoirement président des trois chaînes de télévision privées. Alors, cette offensive a capoté, mais dans la foulée, s'est créé un lobby, on parlait de lobbying, le G14, qui n'a rien à voir avec le G8 ou le G20, mais qui est le club des principaux, des clubs les plus riches. Alors, ce lobby n'a cessé de vouloir réformer la Ligue des Champions pour fermer cette compétition aux petits clubs, aux petits pays, ce qu'elle a réussi. Et Michel Platini, quand il a été élu à la présidence de l'UEFA en 2007,